Bonjour. Spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 102. C'est la 102e ce mercredi 15 juin 2016. Je suis seul au micro, Christophe Rollin. Je suis abandonné par Gérald, mais un autre Gérald est présent. Il y a aussi un Colin qui est présent. Tous les deux se présenteront. Isa aussi est là. Enfin, tout le monde est là, comme d'habitude. Tout le monde, donc sauf Gérald, mais ce n'est pas grave du tout. On va tout de même discuter de cette pièce, une pièce intrigante, une pièce de la compagnie La Nouvelle Fabrique, dont on va parler en début d'émission. Et puis ensuite, on parlera plus précisément. On évoquera cette pièce qui commence ce mercredi 15 juin au Lavoir Public, donnée également demain, jeudi 16, ainsi que vendredi 17. Comment s'appelle-t-elle? Gagarine Way. Voilà, on verra ce que c'est. Une pièce assez spéciale, une comédie percutante, je crois que c'est comme ça qu'elle a été présentée, ce sont les mots que j'ai repris sur le blog. Pour commencer, pour introduire, puisque Gérald n'est pas là, on ne va pas avoir droit à sa programmation musicale idoine, intelligente, prodigieuse, saisissante, remarquable comme tous les mercredis. On va écouter un truc que j'ai trouvé, une bonne chanson quand même, Get Misunderstood par les Troublemakers, avec un dialogue initial par Jean-Pierre Léo, je ne sais plus avec qui il se trouve, avec qui il discute. Il me semble que ça peut lancer les thématiques un peu qui sont chères à Colin pour cette compagnie de La Nouvelle Fabrique et puis peut-être aussi pour cette pièce Gagarine Way. 14h06, quel retard nous avons aujourd'hui? Ce n'est pas grave, nous aurons jusqu'à 15h pour bavarder. D'ailleurs, il me semble que le blues des canuts n'aura pas lieu. Nous verrons. On commence en musique et on continue avec des propos et des paroles sur cette pièce donnée au Lavoir Public. Et elle sera même reprise, on le sait déjà, elle sera reprise en novembre prochain au Théâtre L'Élysée.
Aujourd'hui, parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas faite, et qu'il n'aurait pas faite, qu'il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait. Je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il y aura toujours des fous.
C'est un extrait d'une compilation, la compilation des Inrecuptibles, et c'est incroyable. Cet extrait se termine. Isa arrive. Oui, voilà, il n'était pas là, mais bon, c'est pas important. Il a beaucoup préparé. Salut Isa, ne sois donc pas essoufflé. De toute façon, Isa, tu connais la règle du début d'émission. C'est nous laissons la parole à nos invités. Nous n'allons pas du tout les empêcher de parler. Il me semble que c'est une chose sur laquelle Colin Rey pourra rebondir. Et voilà. Et puis nous allons également laisser parler un Gérald, non pas notre Gérald à nous, mais Gérald Robert Tissot, qui sont donc tous les deux, je termine, à l'affiche de cette... Enfin, à l'affiche, qu'on a réellement mis en scène, et pas tout à fait... Enfin, disons, il ne sera pas sur scène, mais tous les deux sont responsables, tous les deux interviennent dans cette pièce, nommée Gagarin Way, qui commence au Lavoir Public ce mercredi 15 juin, c'est à 20h, et c'est encore donné demain jeudi 16, ainsi que le vendredi 17, et ce sera même repris au mois de novembre à l'Élysée, sur le théâtre de l'Élysée, sur la rue, dans le 7e arrondissement, la rue Basse-Combalot, je crois. Colin, Gérald, à vous la parole pour vous présenter. Colin, vous étiez déjà venu, émission numéro 33, le mercredi 14 mai. Vous êtes de retour, ça nous fait plaisir. Gérald aime bien ça, des invités qui viennent et reviennent. Je vous en prie. Gérald, Colin, à vous de parler pour vous présenter tout d'abord dans un premier temps, puis après on parlera de cette pièce Gagarin Way.
Ah, bonjour à tous. Donc moi c'est Colin Rey. Je suis comédien et metteur en scène au sein de la compagnie La Nouvelle Fabrique. Donc il y a une compagnie lyonnaise depuis 2009 dont je m'occupe activement, on va dire depuis 2013. Et j'étais venu effectivement sur une précédente édition de l'émission pour parler du spectacle L'Augmentation de Georges Perec que j'avais monté et qui s'était donné au théâtre des Clochards Célestes il y a deux saisons et à Charlie Chaplin et à Vau-en-Velin et à l'Espace Baudelaire à Rieux-la-Pape la saison dernière.
Vous étiez déjà metteur en scène sur cette
pièce ? J'étais metteur en scène et comédien sur ce spectacle, puisqu'on parlait déjà du monde du travail et on avait fait à l'époque pour cette pièce à 6 personnages, nous aussi comme les grandes entreprises, de la compression de personnel. Et donc il y avait moi qui prenais en charge le texte des 6 personnages et Thibaut Champagne qui prenait en charge toutes les régies, lumière, son, photo, vidéo, plateau, etc., etc. Je m'arrête peut-être là et puis je passe la parole à Gérald.
On posera d'autres questions.
Est-ce que vous avez une préférence d'ailleurs entre la mise en scène et le fait d'être comédien ?
C'est très différent. C'est très différent. Là, la pièce qu'on monte et qu'on crée ce soir, du coup, Gagarin Way, je me suis longtemps posé la question de est-ce que je devais y jouer ou pas. C'est pas une question de préférence. Je pense que c'était bien que je reste à l'extérieur. Et puis c'est aussi par rapport à certains types de personnages ou de types d'acteurs recherchés où là, j'y voyais pas vraiment ma place pour l'instant. Donc non, ça dépend. J'aime beaucoup être acteur. Être acteur et metteur en scène d'un même spectacle, je pense que c'est compliqué. L'augmentation, c'est un dispositif spécifique, mais là, je suis très content d'être metteur en scène et simplement metteur en scène sur celui-ci.
Est-ce qu'on n'est pas d'ailleurs un peu trop pris dans la pièce quand on est et à la fois acteur et metteur en scène? Il y a peut-être une frontière à peut-être pas dépasser.
Je ne sais pas si c'est une question de frontière. Parfois, c'est une question de regard et de recul. De regard et de recul. Et comme là, c'est une comédie qui repose essentiellement sur les acteurs, parce que le plateau est très sobre, encore plus par rapport à l'augmentation. Là, voilà, j'avais vraiment besoin de ce recul et de pouvoir se concentrer sur la situation, l'action et la pensée. Après, il y a des spectacles où on peut et où le dispositif peut primer, ou d'autres choses font que c'est moins compliqué. Là, pour moi, d'une part, par rapport au rôle qu'il y avait distribué et par rapport à une méthode de travail, je préférais m'en extraire. Après, je sais pas, il y a des gens qui y arrivent très bien et c'est tant mieux pour eux et sans doute tant mieux pour le spectacle.
Ok. Donc, c'est à moi alors. Je m'appelle Gérald, donc je fais partie des quelques Gérald qui sont à Lyon. Quand j'étais jeune, il n'y avait que moi qui s'appelait Gérald, maintenant j'en connais trop.
Il nous écoute en plus, hein. Il nous écoute notre Gérald à nous. Et d'ailleurs, Gérald, tu ne t'es pas trompé de station, puisque je n'ai pas précisé ça. Ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'était donc un extrait d'une compilation Objectif 2001 des Inrecuptibles, c'est assez vieux. Et en plus, il se trouve que c'est un générique. Pourrait-on la qualifier de chaîne de station concurrente? C'est presque à la même heure. Il s'agit des Pieds sur Terre à 13h30, je crois, toute la semaine sur France Culture. Donc non, Gérald, tu te trouves bien. Et d'ailleurs, auditeur aussi, je n'ai même pas indiqué, nous sommes bien sur Spectaculaire. Enfin, disons, nous sommes bien sur Radio Canu, c'est le 102.9 de la bande FM, ou bien à Lyon aussi, on peut nous écouter sur de manière générale dans le monde entier. Je me trompe sur Internet, radiocanu.org. Hein. Et on peut nous écouter, ouais, sur Internet
au
un
Japon,
peu partout
d'ailleurs.
Donc notre Gérald à nous, Robert Tissot.
Ouais, voilà. Donc Gérald Robert Tissot, moi je suis comédien, et j'ai aussi une compagnie qui s'appelle Théâtre Double. Je fabrique sporadiquement des spectacles. Donc je me trouve être aussi ou metteur en scène, enfin en tout cas fabricant de projets. Et mais je travaille principalement avec d'autres compagnies, donc des compagnies lyonnaises et puis d'autres compagnies aussi. D'ailleurs cette saison là, j'ai travaillé sur un Brecht qui s'appelle le Saint-Jean des Abattoirs avec une compagnie de Montpellier, la compagnie Interstice, bon qui est on a créé à Grenoble et puis qui est amené à tourner la saison prochaine plutôt dans le sud de la France parce que les régions ne se mélangent pas trop, donc on va pas trop savoir ce qui se passe en Languedoc-Roussillon quand on est en Rhône-Alpes et inversement. Ce qui est un peu dommage, mais ça c'est une
parenthèse. Vous regrettez ça ?
Hein ?
Ah bah vous regrettez le fait que ouais les
parce qu'il y a quand même très peu de enfin à Montpellier ils voient pas de Lyonnais, très peu, nous on voit pas de Montpellier par exemple. Donc voilà. Bon, mais moi je crois que je suis face à une affiche parce que je sais pas si c'est une introduction à la pièce, mais je vois qui sème la misère récolte la colère. Ça pourrait être le sous-titre français de la pièce.
C'est ça.
Ou Gagarinoué, ça nous dit rien en français. Dis c'est quoi Gagarinoué?
Attention, normalement il est 14h16, on ne doit pas encore évoquer la pièce. Enfin, disons, on ne doit pas encore.
Ah bon, on doit pas.
Non, bien entendu, on peut le faire. On peut le faire, mais là, moi j'ai différentes questions peut-être à vous poser. Enfin, des questions, c'est plutôt des noms à lancer comme ça. Vous avez évoqué le Théâtre Double à l'instant. L'orthographe de ce Théâtre Double, elle est assez spéciale.
Ouais, il y a une petite finasserie qui vient pas de moi. C'était D'OUBLE.
Jean-Marc Bailleux, c'est ça, c'est lui.
Ouais, vous le connaissez ?
Pas du tout. C'est sur le site que je trouve que je trouve les renseignements un peu.
Donc effectivement, c'est une compagnie où on a été assez actif, mais ça remonte aussi à assez longtemps. Lui, il avait créé cette compagnie en 97. Après, moi, je l'ai rejoint en 2000-2001, je sais plus, sur un projet qu'on a fabriqué ensemble, justement là où on était acteur, auteur, metteur en scène, un spectacle qui s'appelait Tout doit disparaître, qui était sur la société de consommation, un décor tout en plastique et en bidon, qu'on a pas mal joué d'ailleurs et qui nous a amené à être en résidence à la salle Gérard Philippe à l'époque où Françoise Mémone en était la directrice. Et puis lui, Jean-Marc, il continue aussi à faire ses travaux, notamment à la campagne, puisqu'il bosse dans le Beaujolais Vert où il a toutes ses activités, lui, d'atelier, d'écriture, etc. Et il a aussi un festival dans le Beaujolais Vert qui s'appelle Du foin sur les planches et qui est, voilà, ce sont deux structures qui sont cousines. Et moi qui fais mes projets d'un côté. Donc, du coup, le double, on pourrait effectivement enlever la petite apostrophe. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on se rejoint de temps en temps, mais on est plutôt chacun à driver nos aventures. Ce qui ne nous met pas dans une logique non plus de subvention très très identifiable, hein, dans le sens où, moi étant comédien et que je fabrique des projets, on dirait tous les 3-4 ans, j'ai pas une productivité, je suis pas identifié comme étant metteur en scène, directeur d'une compagnie, etc. Je pense à l'inverse de... Enfin, ou en tout cas à l'inverse, ce qui est pas tout à fait le cas de Colin qui... Voilà, qui monte, qui joue, qui fabrique des spectacles et qui fait vivre cette compagnie, quoi.
Est-ce que vous avez des projets en Suisse
ou... En Suisse, hein.
Ouais, ou...
Après, vous avez vu que j'étais suisse, mais
ça apparaît. Non,
FBI,
bravo, Isa. Non, moi aussi.
Et est-ce que tu as un compte en Suisse? C'est pour ça qui nous intéresse.
À laquelle je réponds souvent. Et quand j'étais plus jeune, je disais que mon père avait une banque, était propriétaire d'une demi-montagne qui possédait une station de ski et une fabrique de chocolat. Et les gens me disaient, c'est vrai?
Non, parce que vous apparaissez, moi j'avais une autre question à poser, mais c'est vrai, vous apparaissez, j'ai cherché à nourrir un peu le blog,
ouais.
Et autant Colin Rey, j'ai pu trouver une biographie, une sorte de présentation qui est faite sur le site de la Nouvelle Fabrique, donc c'était assez simple, mais alors pour vous, j'ai un peu cherché, et c'est vrai, Isa, toi aussi comme moi, on est tombé sur un truc suisse, mais bon, moi j'ai laissé de côté.
Ah oui, d'accord, ouais. Sur l'Oriental Vevey, vous ça c'est vieux, non? Enfin, ouais. Je sais pas. Ah ben c'est ça. Ben alors c'était tout doit disparaître. Oui, j'ai pas mis ça sur la. Justement, c'est là où sur le site de Théâtre Double, effectivement, il y a une rubrique, c'est marqué Gérald Robert Tissot, et j'ai rien mis dedans.
Exact. Voilà, c'est ça.
J'ai
voulu mettre sur le blog, mais je me suis dit bon, c'était un peu étrange, ça donne l'orthographe.
Nul n'est prophète en son pays. En fait, moi, je suis d'origine japonaise.
On le dira tout à l'heure, c'est ça.
Mais j'ai assez peu bossé en Suisse en fait, et pourtant j'aimerais bien. Lyon, Genève, c'est pas des villes lointaines, c'est des villes qui sont assez, je dirais, qui sont même assez cousines. Il y en a une qui était un peu le fief des protestants, mais qui est quand même restée, et enfin avec Calvin et ses acolytes austères, hein. Et Lyon qui est quand même aussi une capitale religieuse, et bon, il y a le Rhône qui coule entre les deux, c'est pas loin, c'est deux villes internationales. Bon, Genève a l'avantage d'être internationale depuis beaucoup plus longtemps, donc c'est une chose qui est quand même vachement intégrée. Et alors ça m'est arrivé de jouer en Suisse avec des productions françaises et une fois sur une production suisse. Mais c'est vrai que j'aimerais bien y aller de temps en temps, quoi. Pour y bosser.
As-tu une question, Isa? J'allais dire Gérald. Isa,
Non, en fait, ouais, je voulais savoir quel projet vous aviez joué en Suisse, vu que vous disiez que vous aviez joué un projet là-bas. Apparemment, vous en avez fait un. Ouais.
J'en avais fait un qui est la seule production suisse que j'ai faite qui était malheureusement pas un bon spectacle. Mais d'après un texte de Charles Ferdinand Ramu qui s'appelait Farinet. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Farinet. C'était un Italien, je crois. C'est une pièce qui se passe dans le canton de Vaud, le canton du Valais. C'était un espèce de Robin des Bois du coin qui fabriquait de la fausse monnaie, qui distribuait cette fausse monnaie aux gens qui en avaient faim.
C'est un bon thème, ça. Mais la pièce, non, moins.
Après, voilà, c'est. D'abord, c'est un roman. Bon, c'est un super roman.
Alors, c'est difficile.
Et puis voilà, après, la réalisation était ce qu'elle est. C'est une radio internationale. J'espère que je ne suis pas entendu. Je n'ai cité aucun nom.
Et évoquons une chose qui pourrait vous concerner aussi, Colin, c'est que vous avez tout à l'heure nommé parmi les différents endroits où vous avez joué, je crois, vous avez nommé le centre Charlie Chaplin et. Donc Gérald, la biographie que j'ai pu faire apparaître tout de même sur le blog, c'était un lien sur avec ce centre Charlie Chaplin, un lien .com avec votre biographie. C'est un point commun entre vous deux, non? C'est ça? C'est où vous égrainiez tout à l'heure différents lieux, Colin, et ça n'a rien à voir? Ou est-ce que vous auriez retrouvé? C'est pour la saison 2010-2011. Est-ce que donc vous étiez bien à cette époque-là?
On ne se connaissait pas à l'époque.
Pas encore.
On se connaissait pas à l'époque.
Mais c'est vrai que cela dit, la première fois qu'on s'est vu, c'était en présence d'Elisabeth.
C'était en présence d'Elisabeth Verschuren, qui est la directrice de Van Vlaam, effectivement. Effectivement. Puisque elle avait vu l'augmentation peut-être 2-3 mois avant, je crois. Et étant tous habitants des pentes de la Croix-Rousse, comme tout intermittent qui se respecte ou qui se respecte pas, on va dire, pour être dans le cliché du comédien lyonnais ou du technicien lyonnais, voilà, on était pas loin, donc forcément on fréquente un peu les mêmes endroits, quoi.
Une question de Gérald, je suis convaincu qu'il l'aurait posé, non pas à Gérald, mais si, ça pourrait être à Gérald, mais à Colin également. Gérald, notre Gérald à nous, hein, Isa, affectionne le je sais pas comment appeler ça, le jeu de mots, disons la paronymie avec entre ces deux termes, subvention et subversion. Est-ce que ça peut faire une transition vers la pièce dont nous allons parler dans quelques minutes? Subversion ou subvention, c'est, je sais pas, il lance ça parfois un peu à la boutade, un peu pour provoquer.
Il faut choisir entre les deux, c'est ça?
C'est pas tant choisir, il aurait sûrement mieux parlé que moi, il aurait sûrement mieux lancé la chose que moi, mais enfin voilà, là, forcément, puisque vous parliez tout à l'heure de ce terme de subvention, puisque vous dites, vous avez indiqué justement le théâtre double. Non, point de.
Non, mais on fait des tentatives de subvention, mais on entend bien ce qu'on nous retourne, c'est qu'on n'est pas assez productif. Il y a une vraie différence quand on est comédien et que sporadiquement on porte des projets. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous allez jouer, moi, comme je joue avec pas mal de compagnies, je vais jouer dans des petits théâtres, dans des gros théâtres. Voilà, donc on est quand même amené à rencontrer les directeurs et. Quand ils nous voient, quand on est dans un projet d'une compagnie qui est identifiée comme une compagnie qui mérite de jouer dans ce gros théâtre qui est le CDN de je sais pas quoi ou ailleurs. Bon, après, du moment qu'on est introduit, c'est assez facile de discuter avec ces gens-là. La question est plus difficile ensuite, parce qu'à chaque fois, moi, je prends des rendez-vous avec eux, je leur envoie mes histoires et tout ça. Ils trouvent ça très intéressant. Trois petits points.
Un silence éloquent.
Mais. Et oui, non, mais pour répondre à la question, après, subvention, subversion, déjà, faudrait arriver à trouver une bonne définition de ce que c'est la subversion et de ce qui est subversif, et c'est tellement. Il y a des gens qui vont être subventionnés parce que précisément ils sont considérés comme subversifs alors qu'ils font fondamentalement les mêmes choses qu'il y a 20 ans mais avec d'autres effets, d'autres moyens. Donc ça dépend. Après, moi je me pose pas forcément cette question-là, je suis peut-être je sais pas, je me pose pas cette question-là, je me pose la question de ça m'est nécessaire ou ça me semble nécessaire ou ça ne semble pas nécessaire. Après, ce qui est sûr, c'est que la subvention, elle, elle est nécessaire. Donc, on continue de la demander. Voilà.
Et puis, la subversion, ça, après, c'est vrai qu'il faut pas être non plus trop catégoriste. C'est-à-dire qu'il y a dans l'institution, comme ça, il y a des gens qui font des choses assez subversives. Effectivement, tu dis parce qu'ils sont peut-être aussi, ils sont subventionnés parce qu'ils sont dans la subversion. Après, moi, je pense que le problème de la subvention, c'est soit les gens vous repèrent parce qu'ils veulent voir que vous faites un trajet qui est sur du long terme. Donc c'est une chose comme ça sur laquelle ils miseraient, quoi. Ou alors c'est tout à coup sur un coup, on se dit tiens, bah celui-ci, alors ça concernait plutôt les jeunes, mais qui diront tiens, bah là il y a tout à coup quelqu'un qui est repéré, puis ça je pense que c'est un petit peu la loterie. Parce que il y a talent et pas talent, puis ça, il ne s'agit pas de dire là il y a du talent, là il y en a pas. En fait, il y a du pas talent partout et il y a du talent partout. Donc bon, après institution par institution, c'est plus facile d'avoir du pognon, c'est clair.
De toute façon, enfin, c'était une manière pour moi de lancer éventuellement transition. Oui. Je voulais parler de cette pièce Gagarin Way pour en parler. Eh bien, effet d'attente. Enfin voilà, enfin, ou disons effet d'annonce. Cette pièce est-elle subversive? Ou disons en quoi elle peut l'être? Ou en quoi ne l'est-elle pas? Ou je ne sais. Eh bien, tout d'abord, on va écouter. On va rester sur les Incorruptibles. C'est une autre compilation, celle qui vient de sortir ce matin, Printemps-été 2016, volume 2. On va écouter le S Crew. Avec ce titre, on va le faire. C'est peut-être en rapport avec ce que Eddie et Gary se proposent de faire. Donc, je vous lis cette petite présentation que font les Arock. Nekfeu et sa team sont de retour avec un nouvel album. Le premier extrait est une déclaration d'intention. On va le faire. Et on veut bien les croire, disent les Arock. Donc, on reste compilation Arock un petit peu. On va le faire. De quoi s'agit-il? Eh bien, auditeurs, restez à l'écoute pour bien savoir qui sont ces Eddie, Gary. Il faudra parler peut-être de Franck. On verra de quelle manière. Et puis encore un quatrième larron dans cette pièce, Gagarin Way, qui est donnée création. Première ce soir, le mercredi 15 à 20h au Lavoir Public. Demain également, jeudi 16 ainsi que vendredi 17 et puis reprise en novembre prochain. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les jours présents. Et donc, écoutons, on va le faire et puis ensuite, nous continuerons. Je donne l'heure, ouais, 14h27. C'est bien, il nous reste encore beaucoup de temps pour parler de cette pièce plus précisément.
Et la douleur j'en veux demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi.
J'suis né la nuit, j'étais destiné à vagabonder. J'suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, j'suis tête humeur et gamondi. Que la flemmardise t'empêche d'enlever le pied du frein. J'suis né la nuit, j'étais destiné à vagabonder. J'suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, j'suis têtu, mais regarde mon dit. Que la flemmardise t'empêche d'enlever le pied du frein. J'aime pas l'empathie quand il faut taffer l'album. J'charbonne et j'm'évade comme les Dalton. Avec le Matisse, des fleurs, j'en ai des tatons. Des fois j'ai trop la flemme et j'remets à demain.
On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi.
C'est dur de s'organiser, de se focaliser. Rendez-moi les jours que j'ai perdus dans leur totalité. Quand j'ai pas de quoi payer, toujours moyen de moyenner. J't'ai dit demain le mois dernier, maintenant j'dois marcher calibré. Ma feuille est blanche depuis des heures, parfois l'inspi s'épuise et meurt. Envie de tout remettre à demain, mais la vie est remplie d'épreuves. J'ai donné de la valeur à des choses futiles et j'ai négligé des choses importantes. Pardonnez-moi dans ma tête, j'suis qu'un gosse stupide. Tout remis à demain, j'ai pas quitté l'enfance.
On va le faire, mais pas maintenant.
spécial, on remet à demain.
Je ne suis pas de ceux qui disent que non. Le mal est un aimant. La force de l'un et l'autre féconde simultanément. J'aurai pas le dernier mot, éternellement. On veut tous voir le monde, découvrir tous ses éléments. Course après le temps, tous les jours, j'ai vu que beaucoup tombent dans les roues. Moi j'ai d'autres bâtons dans les roues. La raison était une erreur. Je cours après le temps pour des sous. J'en ai vu plein balancer. Hein. Pas voir le bout comme les océans. Quand y'a du cash, on s'en sert. On va le faire.
Mais pas maintenant, on a le temps, des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant, on a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi.
Je suis né la nuit, j'étais destiné à vagabonder. Je suis dans mon wagon, j'attends de conquérir le train. J'ai des bons conseillers, je suis des tumeurs et gamondi. Que la flemmardise t'empêche d'enlever le pied du frein.
Vous êtes bien toujours hein, sur Spectaculaire et ces quelques notes de musique, c'est seulement pour parler, mais même pas une seconde de cette pièce, enfin si quand même quelques instants, pour parler de cette pièce, Les Précieuses Ridicules, qui va commencer demain, jeudi 16 juin, au Théâtre de la Croix-Rousse. Gérald se déplacera, ben voilà, ce générique est terminé, c'est la musique que l'on peut trouver sur le site de la Croix-Rousse, c'est cette musique teaser. Cette pièce est une pièce de Molière, donc peut-être que cette musique ne correspond pas tout à fait à l'esprit. Bien, pour en savoir plus, rendez-vous au Théâtre de la Croix-Rousse de ce jeudi 16 juin jusque, je crois que c'est donné jusqu'à vendredi la semaine prochaine, donc ce sera le vendredi 24 me semble-t-il. Gérald y va cette semaine, il fera un compte-rendu, puis vous pourrez en savoir plus. Un esprit particulier, enfin différentes choses qui peuvent être assez spéciales. Nous, Colin et Gérald, nous sommes bien en train de parler de cette pièce Gagarin Way. J'avais dit, je vais le faire, je vous laisse la parole pour évoquer, Colin, ce que vous souhaitez. Vous avez tout à fait raison, hein, on se le disait en antenne à l'instant, ben, l'intrigue peut-être, et puis présenter quelques personnages, et puis une note d'intention. À part Isa et Gérald, promis, moi je coupe mon micro, je ne parle plus. Colin, vous présentez comme vous souhaitez cette pièce Gagarin Way qui commence ce jeu mercredi 15, la voir publique jusqu'à vendredi 17, 20h. Colin.
Alors Gagarin Way, donc c'est une pièce, parce qu'on l'a pas encore dit, c'est une pièce d'un Gregory Burke, qui est un auteur écossais qui est né en 68, il me semble. Est traduite par Dominique Ollier. Gagarin Way, c'est, on va dire, l'histoire de deux ouvriers dans une usine du Fife, qui est une région de l'Écosse, une région qui a vu, qui a subi, on va dire, plusieurs vagues de délocalisation, c'est-à-dire qui a vu fermer les mines, puis qui a vu fermer les docks, puis dans le début des années 2000, puisque la pièce date de 2001, qui a vu fermer toutes les industries de petite électronique, on va dire. Donc c'est une usine qui a subi plusieurs vagues de disparition d'emplois, on va dire. Et donc ces deux ouvriers d'une usine qui a été rachetée par un groupe japonais n'en peuvent plus de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie, et décident de faire un gros coup. Pour les médias et pour s'opposer à ce qu'ils considèrent être les dérives d'une économie mondialisée. Et donc ils décident de, je peux spoiler au moins ça, ils décident de kidnapper le représentant japonais de la multinationale qui les dirige. Et ce représentant, donc, qui est responsable de l'audit de la boîte qu'il doit venir faire le lendemain, donc il décide de le kidnapper pour pouvoir mettre en avant leurs revendications et donc faire un gros coup, on va dire, politique. Ce qu'ils appellent la propagande par les actes. Voilà. Seulement, voilà, c'est une comédie, donc évidemment, rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Comme Eddie et Gary l'avaient prévu. C'est une pièce, que Gregory Burke, l'auteur, aime présenter comme, en disant qu'il avait envie d'écrire une pièce sur, on va dire, une crise politique, une crise économique et une crise de la masculinité au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Et donc on a quatre personnages masculins dans la pièce, de, on va dire, quatre âges différents, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. plutôt la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, avec quatre points de vue, tous les quatre employés du même groupe, de la même multinationale, et avec quatre points de vue et différents, et sur le monde, et sur la nuit qu'ils vont passer au sein de cette entreprise, puisque toute l'action se passe dans un entrepôt de cette usine. Du coup.
Et on écoutait les Inrecuptibles juste avant, là, une compilation avec ce titre, on va le faire. On écoutait les paroles, on va le faire, mais pas maintenant, on a le temps, c'est ça, je crois.
Et oui, dans les paroles, c'était on va le faire, mais pas maintenant, on a le temps.
Est-ce que ça peut se poser un peu? Est-ce que c'est.
Ils n'ont pas vraiment le temps.
Là, ils sont un peu pressés par le temps, et c'est plutôt on va le faire, mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Mais oui, on va le faire. On
et
veut
c'est quoi le faire? Donc, c'est prendre l'otage et puis.
Le faire, c'est, on va ouais. dire, aller au bout de notre projet politique, de l'action. De l'action qu'ils ont décidé de mener avec ou sans cagoule, on va dire ça comme ça.
On peut voilà. pas trop vous en dire non plus, mais effectivement, c'est et en fait, à l'intérieur de la pièce, on va se rendre compte, entre autres, que c'est une. Et c'est là où effectivement la comédie, c'est que ces deux personnes, je pense qu'ils ont assez mal préparé leur coup, quand même, on peut dire ça. Et je sais pas, on sait pas d'où c'est venu, mais à un moment ils ont dû, sur un coup de tête, se dire on va faire un truc, et après ils se retrouvent. En ayant kidnappé ce Japonais, quoi, ne sachant pas comment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, quelles sont leurs réelles revendications? Chacune est personnelle, et là, il y a vraiment des dissensions.
Et disons qu'ils vont surtout se rendre compte que, quand bien même ils avaient projeté chacun de commettre un acte spécifique, chacun avait un désir différent par rapport à l'autre. Et toute la pièce va être, la mise en lumière des divergences idéologiques des uns et des autres.
Ouais.
Des uns et des autres, oui.
Et en lisant la pièce, en revoyant son texte et tout ça, ben je me suis rendu compte que c'est vraiment une pièce, parce que c'est une comédie, donc c'est un peu étrange, il y a plein de blagues. Alors quand on lit ça, on se dit, tiens, c'est une pièce politique avec des blagues. Bon, c'est un peu surprenant. Mais cette pièce et ces quatre personnages, en fait, ils parlent de la gauche. Enfin, pour moi, c'est vraiment quatre personnages qui.
Oui, l'évolution de la gauche. De l'évolution de la gauche au XXe siècle, ouais, on va dire de la pensée de gauche au XXe siècle.
Comment elle a évolué, en tout cas, chacun avait. Enfin, le plus vieux, c'est moi, mais on peut se rendre compte qu'ils ont chacun vécu différentes périodes, et même le petit dernier, on ne sait même pas s'il n'est pas. Pourquoi il ne serait pas de gauche, en fait.
Disons qu'il est. Il se dit de gauche, mais il se dit de la gauche qui existe aujourd'hui.
Alors, voilà,
est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Emmanuel Macron est de gauche, quand lui-même n'arrive pas à le dire vraiment, c'est un petit peu compliqué.
Est-ce qu'ils n'ont pas une fausse vision un peu de la gauche? Enfin, parce que bon, là, on a l'impression qu'ils ont un peu une vision de la gauche, enfin, d'une gauche qui n'existe plus depuis très longtemps, quand même.
Non, on va dire plutôt d'une gauche qu'on dénigre depuis très longtemps.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, toute la question, c'est comment est-ce qu'on mène aujourd'hui encore nos luttes et nos combats? Qu'est-ce qu'on fait de notre mémoire? Qu'est-ce qu'on fait de tous les courants politiques qui ont traversé le 20e siècle et des mouvements, à commencer par le communisme. Se pose la question effectivement d'une divergence entre communisme et capitalisme, et de comment est-ce qu'on peut continuer, comment est-ce qu'on peut porter aussi la mémoire des combats des générations précédentes, et comment on est en mesure de s'adapter aujourd'hui dans une économie qui est de toute façon mondialisée. Donc comment porter nos luttes, comment faire en sorte qu'elles soient toujours actuelles et qu'elles soient toujours nécessaires, et comment faire entendre surtout qu'elles sont toujours nécessaires. Mais d'ailleurs, c'est le plus jeune qui porte cette parole en disant non, mais c'est plus exactement comme ça, c'est plus le communisme ou le libéralisme ou le capitalisme, on peut choisir et piocher dans les deux. Et un autre personnage lui répond non, tu peux pas mélanger, il faut choisir ton camp. Donc toute la question de la pièce, en fait, concentré autour d'un kidnapping en entreprise. Donc on a une situation qui est de toute façon très tendue et sur laquelle va reposer à la fois toute la tension et à la fois toute la comédie de la pièce. C'est une pièce qui parle de politique. Je ne sais pas si c'est une pièce politique, mais c'est une pièce qui parle de politique, d'engagement. Qu'est-ce que c'est que l'activisme? Qu'est-ce que c'est que l'anarchisme? Que le communisme libertaire, les théories marxistes, la psychopathologie, l'existentialisme, parce qu'on parle aussi de Sartre, on parle aussi de la philosophie, du monde ouvrier ou du monde du travail en opposition au monde de l'université et de la philosophie. Il y a plein de questions qui se posent à l'intérieur de tout ça.
Parce que moi, pour avoir lu la pièce, je trouve en tout cas qu'il y a une certaine naïveté un peu. Il y a une vision peut-être, enfin, il y a une vision en tout cas de la gauche. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment existé en fait d'une gauche que eux auraient un peu idéalisée. Ouais. Ils sont assez déçus.
Mais j'ai l'impression
d'avoir idéalisé quelque chose qui finalement n'est pas.
Chacun un héritage culturel en fait, un héritage culturel de.
On a presque l'impression qu'ils sont de gauche parce que finalement c'est bien d'être de gauche et que finalement celui qui serait de droite entre guillemets il serait un peu.
Mais en même temps il y a un moment où ils se retrouvent les quatre, où ils se retrouvent les trois. Ils sont trois et pas quatre à se retrouver ou à parler effectivement d'une chose de leur passé, etc. Et tout leur père, leur grand-père était mineur. C'était pendant à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et ça, c'est un moment. Je pense que c'est un moment qui est fédérateur pour eux. Je pense que ça fait partie aussi de leur ciment et de leur ciment social et culturel. Un n'en fait visiblement pas partie. On ne sait pas pourquoi, mais. Non, c'est pas une gauche qui n'a pas existé. Je pense que c'est une gauche qui a existé mais qui n'existe plus. Certains y croient encore. C'est Gary. Un qui n'y croit pas du tout, c'est Eddy. Le petit jeune, et ben lui c'est plutôt via les
on va dire qu'il est un peu plus voilà
via aussi les études qu'il a faites et puis qu'il a lu des bouquins puis qu'il est un petit peu vieux quoi.
C'est drôle que vous disiez pragmatique parce que il est pas pragmatique. Tom, quand il dit le jeune est plus pragmatique, je sais pas s'il est plus pragmatique. Le jeune a fait des études de sciences politiques, donc a été nourri à l'idéologie qu'on apprend quand on fait des études de sciences politiques. Donc en fait, c'est très personnel de dire qu'il est pragmatique. Moi, je pense pas qu'il soit pragmatique. Non. Je pense surtout qu'il est très naïf et qu'il a pas énormément creusé.
Non, il a pas énormément creusé, mais il est aussi dans l'époque de son temps qui est celle de maintenant.
C'est ça.
Et le dernier personnage qui lui, on se disait qu'est un ancien, lui, c'est un mec qui a fait 68 et il en est revenu, quoi. Parce que effectivement, tu peux penser que ça peut être aussi une pièce de droite. Je sais pas, t'as lu la pièce.
Ouais.
Et on s'est posé la question. Et en fait, le rôle de Franck, on sait pas trop qui est ce bonhomme, mais ça peut aussi être un ancien mec de la gauche et qui s'est dit bon, voilà, qui a fait 68, qui a passé des années hippies, et puis qui s'est dit en fait non, mais maintenant en fait c'est quoi ce monde ? C'est un monde où il faut gagner du blé, donc on va gagner du blé. Et voilà quoi.
Et l'écriture de cette pièce là, c'est très bien, on évoque un propos, c'est intéressant, mais l'écriture là, je suis sur le dossier de diffusion que je vous remercie Colin de m'avoir transmis. La pièce débute par un dialogue philosophique et pourtant nous sommes bien au théâtre et il n'y a qu'au théâtre que l'on peut parler philosophie alors qu'on s'apprête à voler ou tuer quelqu'un. On pense à Coltès ou au Fossoyeur de Shakespeare et là aussi le paragraphe continue. L'écriture de la pièce parce que puisque nous vous tenons tout de même Gérald et puis Colin, vous Colin metteur en scène, il faut quand même qu'on parle de l'écriture. Vous parliez tout à l'heure de choix de choix qu'a fait Gregory Burke ou disons de choix dans la pièce. Vous, Colin Rey, pour cette nouvelle fabrique, pourquoi votre choix s'est-il porté sur cette pièce? Puis l'écriture, qu'en pensez-vous? Et vous, Gérald, qui jouez dans cette pièce, je ne sais pas, les mots en bouche ou les actions ou différentes choses, les didascalies, avez-vous un goût pour... Est-ce qu'il y a justement à l'intérieur de cette pièce beaucoup de gestes, beaucoup d'actions, différentes choses? Colin, peut-être alors, si vous pouvez
pourquoi
commencer.
Pourquoi j'ai choisi cette pièce? Alors,
on n'a pas assez présenté tout à l'heure, je crois, la nouvelle fabrique, il me semble. Si, l'idée d'empêchement que je souhaitais évoquer.
Oui, c'est une des choses. Faut souvent poser des définitions sur son travail, donc j'ai essayé de trouver celle-là. On va dire, a posteriori, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je montais une pièce, j'allais travailler sur ce que j'ai appelé donc les empêchements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'homme, aujourd'hui, ou qu'un groupe d'individus, une communauté n'arrive pas à s'accomplir dans ce qu'ils cherchent à accomplir. Sur l'augmentation, on avait donc un employé qui essayait pendant 43 années de cotisation d'obtenir une augmentation sans y arriver. Sur La Vieille de Danny Larmes, c'était un jeune auteur qui est censuré par le régime politique dans lequel il vit, qui n'arrive pas à écrire, qui a perdu l'inspiration, et qui est poursuivi par un cadavre. Et un des prochains projets que je veux travailler, c'est autour de Pinter, sur la question de la jalousie, où on n'arrive pas à faire confiance à l'autre. Et dans celle-ci, en fait, à la suite de l'augmentation, je me suis posé la question de qu'est-ce qui fait que dans une lutte, dans un combat politique, on quelqu'un n'a plus d'autre recours que celui de la violence, ce que j'appelle la violence comme arme de communication massive. Qu'est-ce qui fait que, une fois que toutes les avenues ont été explorées, une fois que la fameuse porte du dialogue social, on a bien rendu compte qu'en fait elle était fermée, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à un acte de violence? C'est toute une question sur l'activisme et sur l'engagement, en fait.
Il y a une énorme actualité, hein, moi, bah, il me semble.
En fait, j'ai eu, il y a presque un an, ben voilà, il y a eu une histoire de décapitation en Isère, puis au moment où finalement je décide de monter Gagarinoué, l'épisode de la chemise déchirée à Air France, Goudière, la loi travail qui peut passer en force avec le 49-3, oui, on est dans un climat social délétère où chacun avance ses pions. Si je peux me permettre de citer une citation de Warren Buffett, qui est une des plus grandes fortunes des États-Unis, je crois la troisième plus grande fortune mondiale. Je vais la retrouver.
Un milliardaire américain.
Voilà. Je vous le lis.
De votre part, Colin.
Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène la lutte, et nous sommes en train de la gagner. Voilà.
Il y a une date où c'est.
Oui, de toute façon, c'est ça, éternel, c'était non donc dans une interview de CNN et ça a été cité par le New York Times le 25 mai 2005. Voilà.
Ouais, je crois
non, c'est l'interview du 25 mai 2005 qui a été citée dans le New York Times le 26 novembre 2006. C'est Warren Buffett qui, en 2008, était considéré comme l'homme le plus riche du monde, selon le classement du magazine Forbes. Et donc, après 2008, malheureusement, voilà, les subprimes passant, il est le pauvre descendu qu'à la troisième place.
Oh là là là
voilà.
Là. Plein.
C'est absolument
terrible. Bête. Il me semble qu'il rajoutait, je crois, j'ai entendu parler de cette interview, il me semble que hors antenne, en off, il disait fuck off ou fuck you, enfin il y a un truc comme ça. Je déconne totalement, je plaisante. Colin, vous parliez donc
du style.
Oui, on parlait du style, on parlait du style de la pièce. Alors, je vais répondre sur la question de Coltès parce qu'après ça va enchaîner. Moi, quand j'ai découvert cette pièce, la première scène, c'est un échange sur les rapports entre Sartre et Genet. Donc ils sont en train d'attendre le troisième larron qui est censé arriver avec le kidnappé, et tout à coup, comme ils attendent, ils disent: alors qu'est-ce que tu disais à propos de Sartre? J'en disais rien du tout, c'est toi qui parlais de lui. Et donc ils commencent à parler des rapports entre Sartre et Genet et à s'interroger sur la question de l'existentialisme. En gros, l'existentialisme est-il une fumisterie ou non? Et ça finit par la citation exacte, je voudrais pas l'écorcher, mais je crois que c'est
qui l'emporte, Jean-Paul Sartre ou Jean Genet, lequel?
C'est plutôt Eddy, en l'occurrence, celui qui fait la démonstration philosophique, mais qui pourrait autant se passer dans un pub que que dans une soutenance de thèse. Mais ça termine par: tout connard qui élabore une théorie selon laquelle les voleurs ne s'intéressent aux affaires des autres que pour réaliser la conjonction de la conscience du sujet avec sa propre réalité objective est un branleur. Voilà. Donc en gros, toute la question de Sartre et Genet, c'est Sartre. Enfin, Genet devait se faire emprisonner pour vol suite à vol avec récidive. Et finalement, il n'a pas été emprisonné. Il a été libéré suite à une tribune de Sartre. Je crois, dans Libération, en disant qu'en fait Genet se conformait en mode existentiel au rôle que. Enfin, en gros, se conformer au rôle de voleur, parce que la société voulait qu'il soit un voleur, donc il volait pour cela. Et donc ça, Eddy, un des deux employés de l'usine, dit que voilà, l'existentialisme est de la fumisterie. Là où je parle de Coltès et de Shakespeare, c'est qu'effectivement, on a a priori un vigile et un ouvrier qui sont en train de parler et qui parlent de philosophie, comme on peut avoir le dealer et le client chez Coltès qui discutent autour d'un deal, ou les fossoyeurs qui parlent de la condition humaine et qui philosophent, qui ont des discours métaphysiques sur la condition humaine, les fossoyeurs dans Hamlet par exemple.
C'est pas le même genre de littérature.
En revanche, voilà, et on est dans une comédie britannique, et on est dans une langue qui est très directe, qui est, elle est pas naturaliste parce qu'elle a une écriture qui est vraiment rythmique, mais elle est très vive. Voilà, on est dans une langue qui est vive, qui est droite, qui est rythmique, qui peut paraître quotidienne ou naturaliste, mais qui ne l'est pas, qui a besoin du muscle, qui a besoin de muscle. Et c'est pour ça qu'on n'est pas à la télé, et c'est pour ça qu'on n'est pas au cinéma non plus, on est au théâtre.
Pourtant, alors, parce que tu parles de télé ou de cinéma, justement, c'est vrai que j'avais été un peu dérouté par le style de la pièce, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de blagues, et on se dit, tiens, c'est bizarre de parler de ça, quoi, de ces sujets-là, comme ça, et en fait, en voyant quelques films, que ce soit des films de Ken Loach, ou d'autres films qui sont des comédies dramatiques.
Il y a ce côté-là aussi un peu.
Bah, vachement, il y a vachement ce côté drôle, et il y a des choses comiques dedans, mais il y a une chose qui est très, très investie. Et là dernièrement, parce qu'on parlait de différents films, et moi j'avais un petit peu de me nourrir aussi par rapport à cette écriture anglo-saxonne, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même écriture théâtrale qu'on a en France, qui a plus tendance à poétiser. Si tu parles de Coltès ou là tout d'un coup, si on regarde effectivement
Ouais,
dans la suite des chants de coton, où ça se répond par monologue, etc. On n'est quand même pas vraiment dans cette même écriture-là. Par exemple, il y a le film qui s'appelle We Are Four Lions, je sais plus de qui c'est. Enfin, c'est un film de 2010 qui est quand même sur un sujet qui est assez casse-gueule, où c'est vraiment quatre branques, mais vraiment quatre branques, qui décident de faire des attentats islamistes, mais en sachant pas du tout comment s'y prendre, en faisant connerie sur connerie. Et on est un peu dans le même genre de configuration de pièces, quoi. Et alors que c'est un sujet assez, par exemple dans We Are Four Lions, où les types ont quand même vouloir se faire péter pendant le marathon de Londres,
et finissent par ne faire exploser qu'eux-mêmes.
Ouais, voilà, mais ils le font quand même, et c'est quand même par rapport à l'actualité.
Alors on va le faire ou pas,
et la différence je trouve entre ces écritures anglo-saxonnes et on va dire des comédies à la française, que ce soit dans le cinéma comme dans le théâtre, c'est que et moi c'est ça qui me plaît dans les écritures britanniques. J'ai monté du Bond, le numéro d'équilibre,
Pinter à venir, vous dites.
Pinter à venir.
C'est vachement cash, hein, je trouve.
Il y a quelque chose de cash, et puis il y a surtout le comique repose sur la question du danger. En fait, s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de comique. Et c'est pas de la blague. C'est souvent drôle au dépend d'eux, mais on n'est pas en train de faire de la blague. Voilà.
Oui,
on est dans des situations qui nous amènent à cet endroit de dérision, de ridicule. Mais c'est surtout qu'on est à bout de nerfs, enfin on est au bord de quelque chose à chaque fois. On est toujours border.
Et quand tu parlais tout à l'heure de Sartre et Genet, enfin pour moi, on en avait parlé une fois, on répète, mais pour moi c'est d'emblée, y a déjà une fracture aussi entre la gauche intello, les communistes intellectuels, la gauche intello et la gauche prolétaire, quoi. Et dit, il est en train de dire, il parle de la France, en plus dans la France, ils ont quoi pour en parlant de la récidive, ils trouvent pas le mot, mais c'est quoi la France? En France, c'est de la branlette, etc. Et on est effectivement, dire la gauche intello, c'est pas la gauche prolétaire et ouvrière.
C'est un peu même la fracture quasiment la plus importante au niveau de la gauche, quand même, c'est entre les prolétaires et
ça démarre là-dessus quand même, hein, même ça, parce que c'est vrai que la pièce elle démarre sur
Burke est malin, c'est justement qu'il n'oppose pas dans des catégories, on va dire la gauche qui étudie, enfin on va dire ceux qui étudient et ceux qui travaillent. En l'occurrence, celui là qui a le plus d'érudition, c'est l'ouvrier, et donc c'est lui qui pense plus que celui qui a étudié, par exemple, et qui arrive à élaborer une pensée qui quand bien même elle peut être fumeuse à certains moments, ou en tout cas escroc, elle est brillante. Il est dans une démonstration qui est brillante.
C'est sûr.
Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est souvent celui qui est le plus séduisant qui est le plus dangereux dans la pièce.
Mais il renfonce le clou, par exemple, parce que là on parle de sa début de Sartre Genet, il reparle de 68 aussi, où il y a une espèce de dédain sur 68, alors que bon, c'est parti des étudiants, mais il y avait aussi tous les ouvriers, il n'y avait pas que les étudiants en 68, enfin voilà, tu dis aussi toute cette espèce de...
Après, ça parle aussi d'une opposition entre l'Angleterre et la France, et de deux systèmes politiques qui se regardent d'une côte à l'autre, quoi.
Ton grand-père, quand la gauche, ils se sont retournés les uns contre les autres, enfin voilà, il y a... Ça, en fait, mais j'entends ce que tu dis, parce que je pense qu'il faut, nous on a aussi creusé le truc, parce qu'on répète, on dit qu'est-ce qu'on raconte au-delà de ce ping-pong verbal, parce qu'il y a quand même vachement de ping-pong verbal, c'est que ça parle assez en profondeur quand même de l'histoire de la gauche, enfin, ou du XXe siècle, ou de ce qui s'est passé. Puis je pense qu'eux, apparemment dans le coin,
ils parlent effectivement d'une certaine fracture un peu d'eux là. Ouais. de la gauche.
Et eux, fils d'ouvriers, ces mecs-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plein qui sont allés en Espagne, qui sont un peu sabordés eux-mêmes, etc. Quoi.
Et sur le plateau, alors, je relance cette question, là, encore 5 minutes à peu près pour arriver à 15h. Comment ça se passe, vous, Gérald, qui êtes comédien? Comment ça marche? Vous parlez de ping-pong verbal, j'entendais tout à l'heure Colin parler de muscles. Comment ça marche? C'est épuisant. Vous êtes. C'est une langue facile à se mettre en bouche, même si c'est donc une traduction. Hein. On l'a peut-être un peu laissé
entendre. Traduction de Dominique Ollier.
Voilà, la pièce de Gregory Burke, une pièce anglaise. Ça fonctionne. Enfin, du moins, ça marche bien. La traduction était assez bonne. Les termes, on se les met facilement en bouche. Il y a donc beaucoup de. Il y a des bons mots. Vous parliez de gags tout à l'heure. Gérald, il parle de parler cash. Vous, Colin, vous parlez de risque. Concrètement, sur scène, ça marche.
Moi, je dirais déjà les comédiens. Qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Bon, c'est un huis clos. Alors il y a, en fait, c'est un huis clos, donc il y a 4 personnes qui sont là. Il y a pas d'action à proprement parler, à part l'action qu'ils veulent faire, mais il y a pas d'action extérieure qui fait que tout à coup il y a des gens qui arrivent en disant, je sais pas, il y a les flics, etc. Tout, c'est-à-dire que
mais cette action de parole.
C'est beaucoup un débat d'idées avec des digressions de temps en temps, mais
qui se pose pas comme un débat, c'est-à-dire qu'il y a une action qui va être amenée et
c'est surtout,
est-ce qu'on ne le fait pas et qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour retarder ou annuler ce qu'on avait prévu de faire.
Il y en a un qui cherche des raisons, il veut le faire mais il veut des bonnes raisons, je sais pas s'il veut des bonnes raisons mais il veut en tout cas être convaincu de le faire. C'est ça qui est assez étonnant. Il dit mais je veux savoir avant de faire ce qu'on a à faire.
C'est ça, c'est je ne veux pas être, on va dire, si je suis un activiste, je veux que mon acte ait un sens. Et toute la question, c'est ça ne peut pas ne pas avoir de sens. Donc si on le fait, il faut que ça ait un sens. Donc pour que ça ait un sens, j'ai besoin de réponses. Ce qui va pas forcément être le cas, de chacun des 4. Et donc il y a parce que nous avons 4 personnes.
C'est un truc sur l'individualité aussi, hein, de l'individualité dans un groupe, dans un mouvement de.
Et puis il y a aussi tous les imprévus à gérer, parce que en fait il y a une somme de quiproquos et d'imprévus dans la pièce sur lesquels repose la comédie évidemment, qui serait dommage de révéler, mais effectivement rien ne se passe comme prévu et il se retrouve à devoir gérer problème sur problème. Et comme ce ne sont pas des kidnappeurs professionnels, et bien évidemment, il y a un certain amateurisme là-dedans. D'ailleurs, il y en a un qui le dit, c'est assez savoureux. Du coup, il dit c'est une première pour nous, hein, désolé, hein, on va s'améliorer. il le dit à la perpée. Donc voilà, il y a cet esprit anglais ou écossais qui est hyper savoureux et qui, dans lequel il faut rentrer. Franchement, quoi, droitement, dedans. Il faut pas chercher à financer, donc au plateau. En plus, on est sur un dispositif qui est bifrontal. C'est un spectacle qui est prévu pour être joué tant dans des théâtres que dans des lieux qui sont non théâtraux. Donc on a un dispositif qui est très sobre et par rapport à l'augmentation, j'en reviens vraiment à quasiment un plateau nu, 4 acteurs et une lumière. Pièce dialoguée.
Éclairage.
Son lumière, costume évidemment.
Ce qui n'empêche pas que ce soit chialé un petit peu.
Tête de tréteau, non.
Ben ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas aussi d'avoir. Moi je sais que par ailleurs, je mets en scène un spectacle qui est hyper simple, mais n'empêche qu'on a besoin au moins d'une journée. D'installation parce qu'il faut s'adapter au lieu et tout ça.
Le lieu permet une question. Moi, je reviens là-dessus. Excusez-moi, Gérald, la jute. J'ai l'œil sur la pendule, ça tourne. On va arriver en fin d'émission. Puisque vous jouez au lavoir public, c'est-à-dire au 4, impasse Flessel, est-ce que vous terminez au lavoir public? Est-ce que vous terminez lessivé? Êtes-vous crevé? Est-ce qu'il y a un vrai investissement qui fait que on tient un comédien? Là, c'est rare. On a un metteur en scène, ça c'est très bien. C'est assez fréquent. Mais il me semble sur scène.
Moi, non, mais parce que. Mais je pense qu'il y a.
Il y a une tension pour vous que vous ressentez.
Si, il y a une tension. Mais il y a un truc que je ne vais pas raconter parce que vous voyez le truc. Parce qu'il y a une chose qui est, pour moi, hein, je dirais, moi en l'occurrence, en tant que comédien dans l'aventure, c'est qu'il y a une chose très insolite que je n'ai jamais vécue, mais qui est de l'ordre physique. Donc c'est sûr que j'ai une espèce de préparation.
Donc le rôle de Gérald, effectivement, est, on va dire, le contrepoint. De la distribution.
Et puis l'arrivée, et puis ce qui
Oui, mais il ressent une tension.
La première fois que je parle, c'est quand même assez étonnant. Bon, c'est une chose étonnante à éprouver. Et qu'il faut... Mais il n'y a rien qui me file un peu du courbateau parce que ça. Il faut le tenir.
Mais voilà, vous verrez. Est-ce qu'ils finissent lessivés? Ça dépend de l'énergie qu'ils ont. En tout cas, ils donnent. Ils donnent et il y a la nécessité de donner et de s'engager. de s'engager dans la pièce, absolument.
Oui, quand on
et pour faire entendre, toutes les disputes au sens philosophique ou politique du terme.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand on lit la pièce, on se doute que forcément, mais vous donnez beaucoup de vous-même dans la pièce, parce que c'est vraiment une pièce qui amène à forcément donner de soi, dans le sens où c'est vraiment où il y a un certain parti pris.
Ah oui,
clairement,
c'est clair, donc il faut foncer, quoi.
Ah ouais, il faut.
C'est pas d'aller à toute bombe, mais il faut avancer, quoi.
Mais là, on peut pas jouer à moitié, là. Il faut vraiment être.
On a une situation d'urgence et il faut arriver au bout. Voilà.
L'urgence, grâce à Pascal, nous ne l'avons pas. Enfin, ouais, mais le blues des canuts, effectivement, il me semblait bien qu'il ne commençait pas. Alors, on va déborder à peine. Peut-être une dernière question, Isa, ou est-ce qu'on a. Non, c'est intéressant. On a sûrement pas fait le tour, mais c'est toujours le truc. Si vous souhaitez en connaître davantage sur cette pièce, eh bien, allez-y donc. Allez la voir. Ah ben voilà.
Je redonne les dates.
Au lavoir public.
Donc, au lavoir public. Alors, ce soir, c'est complet, mais il reste encore des places demain et après-demain. À 20h. Là, je crois que. Voilà. Mais si vous voulez venir, au pire, vous irez boire un verre à côté, il y a des bars sympas. La pièce dure 1h45, donc c'est au lavoir public 4 impasse Flessel, et le spectacle sera repris à Lyon du 3 au 10 novembre au théâtre L'Elysée, donc rue Bascombalo, effectivement, dans le 7e.
Faut donner le téléphone du lavoir ou pas, non?
Allez, j'ai mis un numéro.
réservation@lelavoirpublic.com.
Exactement, puis j'ai mis un numéro de téléphone, j'ai mis un 09, je sais plus où j'ai trouvé ça.
Oui, enfin, qui est le numéro du lavoir.
Bon, ben, c'est très bien. Alors,
et j'avais une dernière question. Pourquoi aussi peu de représentations au mois de juin?
Parce qu'il y a encore une autre série de représentations sur la saison prochaine. Au départ, j'étais pas censé monter de spectacle cette saison. Donc, on a eu la chance d'avoir ces dates-là au mois de juin. Et je préférais, avoir simplement ces trois dates-là. Puis c'est pour des questions de calendrier aussi des uns et des autres. D'accord. Sachant qu'il sera repris la saison prochaine. Mais si vous voulez, ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Vous aurez vu la pièce, donc ce sera avec plaisir.
Gérald.
Ouais, et puis on.
Gérald.
Voilà.
Rétabli.
On le salue, puis on se verra aussi peut-être pour Harold Pinter. Et pour l'instant, c'est donc fin d'émission. J'avais deux, trois annonces à faire que je vais faire maintenant. C'est donc Gérald qui m'a demandé de les indiquer. Pourquoi pas? Il a raison. Michel Fernandez, notre jazzman, qui est déjà venu plusieurs fois à l'émission, sera en concert ce samedi 18 juin au Jazz Club de Saint-Georges, 4 rue Saint-Georges, dans le 5e arrondissement. C'est à 19h45 avec deux sets avec Entracte. Réservation conseillée. Je mettrai tout ça sur le blog. Il y a des numéros de téléphone. Et puis il me demandait aussi de parler d'autres invités qui sont déjà venus, les peintres Numa de Rose, Garcia Gallo également et Monsieur Poirat. Donc ils sont tous à l'affiche de cette même, on voit leur visage sur l'affiche de cette exposition Tohu Bohu, Tintouin et Tintamarre, un simili-dieu vacarme orchestré par Gérard Matisse. C'est à Vienne du 24 juin au 13 juillet. Ah bon, on pourra en reparler la semaine prochaine, le 22. Oui, Colin, bien entendu, si les invités ont des annonces à faire, c'est avec plaisir.
Oui, simplement, comme on en a parlé pendant la pause musicale et que dans le local de Radio Canu, il y a une affiche. Qui sème la misère récolte la colère. Ça faisait une jolie correspondance avec.
Parce que c'est quoi, moi j'ai même pas vu cette affiche.
Révolution sociale et libertaire, nos passaran, le point levé, qui sème la misère récolte la colère.
Aurélie Boultan, auditeur, de vous rendre à ce mercredi 15 juin, ultime annonce que Gérald m'a demandé aussi de faire, c'est Aurélie Boultan de vous rendre à 16h à la médiathèque du Bachu, place du 11 novembre dans le 8e arrondissement, pour entendre Paul, j'ai perdu son patronyme Paul, elle sera au piano, il était question de l'inviter, Paul Cornet, il était question de l'inviter, on n'a pas pu encore le faire, elle sera présente pour donc un concert, piano solo pour impro et compo, il y aura un CD, c'est le moment. Ah, on revient encore à cette idée. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? C'est le moment. Le CD sera en vente au terme du concert. On se retrouve mercredi prochain, le 22. On parlera de la pièce que Gérald aura vue depuis. Il aura vu. Sera-t-il aussi allé voir le Gagarin Way? Lui, en tout cas, il sera allé voir Les Précieuses Ridicules. Toi, Isa, peut-être, si tu l'as lu, Gagarin Way, tu souhaites y aller? On va y trouver ça. Bon, on mettra un contrôle.
Je vais l'avoir vendredi, je pense.
Ah, très bien, on s'organisera.
Je serai le bienvenu.
Et puis, les annonces encore. Son matin aujourd'hui, non. On n'arrête pas le prog à 17h et puis à 20h, à 19h, le Canu Info de Radio Canu comme tous les mercredis. Voilà, la semaine prochaine, surprise, je crois. Il est peut-être question de foot. Ouais, pourquoi pas, on va parler d'Euro. On verra. Merci beaucoup, Gérald. Merci, Colin.
Merci.
On se voit une prochaine fois avec Gérald. Merci, Isa.
Ciao, tout le monde.
Et reste à l'écoute des bandes continues de Radio Canu. Salut, tout le monde. Ciao.